L'homme sécrète son espace dans ce qu'il sécrète. Il crée dans le fond une sorte de seconde nature qui a des temporalités différentes.
Le mot géographie, il a plus de 20 siècles.
Durant des siècles, ça a été un savoir politique que les géographes, en devenant universitaires, ont un peu trop oublié.
Il y a une chose qui est propre à la géographie, c'est qu'on faisait moitié géographie physique, moitié géographie humaine.
Nos géographies, Dominique Rousset.
Bonsoir à tous, plaisir de vous retrouver après ces longues semaines d'entreprendre avec vous. Pour vous, un nouveau voyage aux confins d'une discipline très souvent convoquée sur notre chaîne et ailleurs, abondamment discutée, à la fois ancienne et sans cesse renouvelée, omniprésente et pourtant méconnue, complément indispensable à toute intrusion dans les champs du politique, du social, de l'écologie, des pratiques culturelles. Il était temps de lui faire toute sa place. Nous parlerons donc désormais chaque jeudi soir à 21h avec nos invités de géographie. Mais il nous faudra d'abord rappeler les étapes parcourues au cours de sa longue existence, les différents sens qu'elle a connus depuis sa vocation initiale de description, de dessin de la Terre, et même les glissements opérés des disciplines purement scientifiques, même mathématiques, vers ce qui nous occupera surtout, nous, cette année, sa dimension sociale, son influence sur nos activités humaines. Nos géographies, c'est donc le titre générique que nous avons choisi, parce qu'elles sont diverses et qu'elles parlent toujours de nous, où qu'elles se trouvent, pas forcément seulement en France. Première émission avec donc nos deux invités, un nécessaire retour sur le passé, un état des lieux et quelques définitions utiles pour mieux aborder les multiples thèmes qui vont suivre la géographie, toute une histoire. Bonsoir Marie-Vic Ozouf-Marinier, bonsoir Philippe Esteb.
Bonsoir.
Marie-Vic Ozouf-Marinier, donc directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, historienne et géographe. Responsable, j'ai envie de le mentionner d'emblée, de deux masters, peut-être aussi de plusieurs directions de thèse, deux masters territoire, espace et société. Vous verrez que le terme territoire reviendra beaucoup dans nos entretiens. Et également d'un master Erasmus, territoires européens, identité et développement. Philippe Esteb est directeur d'études à la coopérative Acadie, où il est spécialiste de l'aménagement du territoire. Il a beaucoup travaillé sur l'aménagement urbain des quartiers populaires et sur bien d'autres thèmes. Et on fera certainement référence à son dernier livre, L'égalité des territoires, une passion française. Ça va être certainement un de nos thèmes forts. L'origine de la géographie, nous l'avons entendu dans notre générique, elle est ancienne. On peut revenir à la Rome antique, le genius loci, l'esprit des lieux, le caractère pour désigner l'identité, l'atmosphère d'un lieu. Mais si l'on reprend l'origine du mot, c'est le dessin de la terre en grec, et d'ailleurs en latin, géographia. C'est bien
oui,
cela,
oui,
Marie-Vic.
Tout à fait, oui. C'est la description de la Terre.
Décrire la Terre, l'étude donc des phénomènes physiques d'abord, des phénomènes physiques, biologiques et déjà humains.
Oui, déjà humains. Il y a une part de la géographie qui consistait, on appelait ça la chorographie, qui consistait donc à décrire les pays ou ce qui en tenait à l'époque et leur population.
Donc géographie physique, mais avec des disciplines évidemment très scientifiques, beaucoup de mathématiques au début.
De la cosmologie, de l'astronomie bien sûr.
Des cartes, évidemment.
Des cartes.
Assez tôt.
Oui, d'où ce glissement vers ce qu'on a appelé la géographie physique, mais auparavant qui s'appelait aussi la géographie mathématique.
Une géographie qui interrogeait quoi au fond? Les traces que laissaient les sociétés sur les espaces, sur... ou dans le temps, Philippe Esteb, pour revenir aussi sur cette partie historique.
Je pense que, en tout cas, aux origines de la géographie, on est bien dans cette tentative de lecture de l'interaction entre l'homme et le milieu, il me semble que. Et que la séparation géographie physique, géographie humaine est finalement relativement récente, entre guillemets, dans l'histoire de la géographie. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, me semble-t-il, c'est qu'on est en train d'essayer, au contraire, de réunir les deux, notamment autour de l'enjeu écologique.
Après une période quand même de tension entre elles, non? Il y a eu un peu les tenants et les contres. Lorsque la géographie dite humaine, sociale est apparue, à quelle date d'ailleurs vous la situez, quand l'un et l'autre?
On peut situer très, très précisément l'apparition de ce qu'on a appelé la géographie humaine, parce que ça a été un acte fondateur. Avant la géographie humaine, on parlait de géographie politique. politique. Et c'est donc l'école française de géographie sous le patronage du célèbre Paul Vidal de la Blache qui a décidé, à la suite de la création de son périodique Les Annales de géographie en 1891, dans les années suivantes, ils ont fait évoluer cette notion de géographie politique en la transformant en quelque chose qu'ils ont voulu appeler la géographie humaine. Et c'est vraiment au tout début du XXe siècle, ce qui est effectivement, comme le disait Philippe, très, très tardif, qu'on a eu cette séparation entre géographie physique et géographie humaine.
Oui, avec une phase, je le disais, un peu d'opposition quand même, en tout cas.
La phase d'opposition est beaucoup plus tardive, à mon sens. Hein. Vraiment, dans ces débuts de l'institutionnalisation de la géographie, il faut rappeler, par exemple, qu'on faisait deux thèses de géographie. On faisait toujours une thèse de géographie physique et une thèse de géographie humaine.
On ne séparait pas les deux.
Voilà. Donc, quand même, les deux étaient conjugués, ont été conjugués pendant très longtemps.
Mais ce qui s'est passé, c'est que la géographie physique a évolué sur un mode beaucoup plus science dure que la géographie humaine, même si, la géographie humaine a utilisé aussi beaucoup et on continue d'utiliser les statistiques, les modèles mathématiques, etc. La géographie physique s'est diversifiée entre les climatologues, les glaciologues. Quand on va au festival de Saint-Dié de géographie, c'est quand même un peu une tour de Babel d'une certaine façon encore aujourd'hui, parce que on ne sait pas très bien parler, enfin moi je ne sais pas très bien parler à un glaciologue par exemple, et pourtant on est censé faire partie de la même maison.
C'est exact. Et je dirais aussi que c'est étonnant de voir ce qu'on appelle géographie dans les différents pays du monde, parce qu'il y a vraiment toute une série de pays où la géographie ça n'est que la géographie physique, et ce que nous en France nous appelons géographie humaine ça s'appelle sociologie, un peu moins souvent anthropologie, mais ça ne s'appelle pas la géographie. Moi, je me souviens très bien d'avoir reçu une étudiante russe qui me disait qu'elle faisait de la sociologie et en fait, elle faisait de la géographie.
Voilà. On peut peut-être mentionner Yves Lacoste, dont vous avez peut-être reconnu la voix dans notre générique. C'était quoi, fin des années 70, la fameuse revue Hérodote.
Oui, tout à fait.
Yves Lacoste qui avait même fait forte impression en parlant de géographie. Ça sert d'abord à faire la guerre.
Oui, alors juste.
Comment l'entendez-vous cela, Philippe Esteb?
C'est un peu ce que j'allais dire, à savoir que la géographie humaine, en tout cas, très tôt, me semble-t-il, est liée aux politiques.
Oui, c'est de la géopolitique. C'était là qu'est apparu.
Alors, en France, en tout cas, ça n'a pas tout de suite pris la tournure de géopolitique. Ça, c'est plutôt en Allemagne que ça s'est développé au début, en tout cas. Et Lacoste a essayé justement de réimporter la notion dans une version moins guerrière. Et moins conquérante et beaucoup plus l'analyse d'une certaine manière de la lutte des places, si je peux dire, notamment au sein du système politique pour la conquête des différents territoires et ce genre de choses. Et pour l'anecdote, la coopérative dans laquelle je travaille, Acadie, qui est une coopérative de géographes, a été fondée par des étudiants de Lacoste à la fin des années 1970, autour de ce slogan « La géographie, ça sert à faire la guerre ». À savoir, en gros, nous allons mettre notre savoir de géographe au service du peuple,
oui, parce que ce qu'il défendait,
ce qui concerne l'urbanisme.
Etc. Voilà, ce qu'il défendait, c'est quand même une approche, disons, politique, en tout cas, clairement assumée de la géographie, mais qui devait être utilisée pour servir la cause des opprimés, enfin des moins bien nantis dans notre société ou sur nos territoires. Déjà, je prononce le terme de territoire et il va revenir très vite.
Ben oui, justement, le terme de territoire, c'est un de ceux qui permet de donner toute sa place aux politiques, hein, au sens large, à la politique, mais au rapport politique à l'espace. Et effectivement, on est tout à fait dans ce moment où on essaye de trouver un intérêt fort dans ce contenu politique de la géographie. Mais je voudrais juste faire un petit pas en arrière pour rappeler à nos auditeurs dans cette géographie, ces origines de la géographie, quand même quelque chose de très important, me semble-t-il, c'est que la géographie, ça a servi à découvrir le monde. Hein. Il faut quand même rappeler le lien de la géographie avec les grandes découvertes, avec les explorations. Il fallait quand même savoir à quoi ressemblait la Terre, tout simplement, avant même de la décrire, savoir combien on avait de continents, jusqu'où allaient les océans, etc. Ça,
c'est un point qu'il faut quand même pas oublier.
Et puis, du coup, souligner l'importance quand même centrale de l'instrument cartographique et des différentes techniques de cartographie, qui est quand même la grande invention l'invention de la géographie.
Voilà, et qui maintenant aussi connaît un développement absolument
spectaculaire, extraordinaire,
spectaculaire ouais. Avec la géomatique. Oui.
Continuons dans les définitions, je crois que c'est très important tout en faisant cette référence à l'histoire. Espace, territoire, lieu, ce sont des termes qu'on entend très, très couramment depuis 2 ou 3 décennies. On s'arrête un instant sur le mot de territoire, alors juste pour un peu l'anecdote d'apparition très ancienne, hein, il apparaît je crois au Moyen-Âge, et dérivant d'un mot latin lui aussi, et qui a été constitué pour causer la terreur chez l'ennemi. C'est intéressant ça de partir cette
oui,
idée.
Oui, alors cette étymologie est souvent contestée, mais en même temps elle est aussi souvent rappelée, et effectivement l'aspect militaire du territoire préside à l'origine de la notion. Donc il s'agit de défendre un espace, hein, et je pense qu'il faut aussi toujours rappeler qu'un territoire, ça se revendique, ça s'approprie, ça se défend.
Ça a des limites.
ça a des limites, voilà. Ça n'est pas n'importe quel type d'espace. Maintenant, on utilise le mot territoire dans tous les sens possibles, au point qu'il s'est totalement banalisé. Mais d'une part, faut rappeler que il s'est banalisé seulement depuis 20 ou 30 ans. Auparavant, eh ben, on n'utilisait pas territoire, on parlait d'espace, on parlait de pays, on parlait de région, on parlait de contrée, on parlait de
province,
voilà, du plateau de tel endroit, ou de la vallée de tel endroit, de terroir, mais on n'utilisait pas tant le mot de territoire. Alors maintenant, on l'utilise vraiment dans tous les sens possibles, et parfois on vide de son contenu cette notion de territoire. Mais il est bon de rappeler donc cette présence du conflit derrière le territoire.
Oui, et pourtant notre Premier ministre, qui l'a utilisé, dit-on, 12 ou 15 fois, je crois, dans son discours de politique générale, ce mot de territoire, justifie cette utilisation en disant « mais c'est la vie des gens ». Son entourage dit que c'est peut-être, oui, la France du bon sens, la France de la raison. Il faudrait l'entendre par opposition à une administration peut-être peu comprise. Est-ce que vous acceptez cette définition-là?
Je l'accepte d'autant plus volontiers que c'est l'une des manières que l'on a adoptées pour travailler cette notion de territoire, c'est-à-dire de faire du territoire une relation de l'habitant, du citoyen, de l'acteur local ou national ou mondial ou ce qu'on veut, à l'espace. Et c'est ce côté relationnel qui procède de conception, de représentation mentale, d'intention, de sentiment, de valeurs symboliques, d'identité. Osons prononcer ce terme qui est aussi très difficile d'emploi.
D'appartenance même. Hein,
d'appartenance.
Affective quasiment.
Voilà, oui. Affective, sensible. Le territoire fait penser à un lien, un attachement ou éventuellement, il peut aussi être un repoussoir dans certains cas, d'une population ou d'un individu à son espace.
Ce glissement, donc, il est contemporain hein, maintenant, parce qu'il semble aussi, quand on parle de territoire, on l'oppose quand même à une administration centrale. Mais là aussi, on peut remonter à l'histoire.
Oui.
Et
oui.
Déjà, depuis bien longtemps, cette administration qui a toujours voulu, au fond, diriger l'ensemble du paysage français. Philippe Estève, ce qui va nous amener aux différences avec d'autres pays d'ailleurs.
D'abord, je pense qu'aujourd'hui, le terme de territoire est utilisé en lieu et place de ce qu'on appelait la province autrefois.
Oui, qui était très bien, non?
En fait, parce que territoire, c'est pas simplement l'administration de proximité contre l'administration centrale, c'est aussi au-delà du périphérique hein, et au-delà de l'Île-de-France, c'est, quand vous dites les espaces du bon sens, de la France qui vit, la France réelle, etc., le pays réel. Enfin bon, c'est une obsession quand même chez les politiques d'aller toujours à la rencontre du pays réel et montrer que ils sont proches des gens. Ça renvoie à d'autres choses que Marie Vic a bien développé dans un article et une communication au colloque de Cerisy. C'est la permanence de cette mythologie, ou en tout cas de cette demande de proximité, qui est récurrente dans les politiques publiques, dans les politiques d'aménagement et dans les politiques d'administration, avec derrière une figure qui, moi, me paraît centrale, dont il faudra qu'on reparle quand même, une figure territoriale qui est la commune et le maire. Enfin, je pense que ça, c'est un point qui est extrêmement important, parce que vous prenez en allemand, par exemple, aménagement du territoire, ça n'existe pas. Non. Ils disent Raumplanung, donc ce qui veut dire planification de l'espace. Donc ils utilisent un terme beaucoup plus géographique, justement, et beaucoup moins politique, militaire. Territoire ne se traduit pas vraiment en anglais. J'ai essayé, ça se traduit, mais personne ne comprend.
Oui, on ne comprend pas ce qu'on veut dire. On n'en parle pas de la même manière, évidemment.
Absolument pas. Et si, alors en italien, on peut dire territorio, mais je pense que ça a plus ou moins la même acception qu'en France, mais on n'en fait pas une maladie, quoi. Enfin, bon, je pense qu'il y a une question française autour de ça.
Oui, ce qui nous ramène vraiment à la question de la centralisation, et pour rester sur la revendication, bien avant 1982 et les premières lois de décentralisation, vous l'avez bien montré, effectivement, Marie-Vigozouf-Marigny, on est dans cette protestation d'un État qui se serait approprié l'ensemble du territoire proprement.
Tout à fait, c'est le paradoxe d'un territoire qui est devenu consubstantiel à la nation, qui est le fondement même de la nation, mais qui entre en opposition avec les territoires au pluriel, qui sont effectivement tous ces solidarités, ces fonctionnements locaux, qui vont rapidement souffrir de cette tutelle, de cette contrainte exercée par la centralisation, et qui donc vont aussitôt après la Révolution, aussitôt après cette institutionnalisation de notre système actuel, encore actuel, vont se mobiliser pour essayer de faire entendre qu'il faut faire reconnaître la spécificité de certains lieux les uns par rapport aux autres, déjà, mais aussi la légitimité que les territoires, donc au pluriel, aient des représentations sous forme politique, aient des moyens d'action et aient des budgets.
Mais peut-on vraiment parler d'une intention de l'État, alors de tous les États, puisque vous avez cité la Révolution, l'époque napoléonienne, et puis bien plus tard les républiques successives, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un désir d'appropriation, de mainmise comme ça sur toutes les provinces françaises, Philippe Estève? C'est pas tout à fait la lecture que vous faites.
Alors, j'y crois pas trop parce que
bien ça, que ce soit constamment dans les revendications.
Ouais. Oui, mais enfin, ça voudrait dire que quelque part, espèce de tribu aurait décidé d'arraisonner le
tribu d'une élite.
D'une élite aurait forcément décidé effectivement d'arraisonner, de s'approprier le pays. J'ai tendance à penser que ce genre de jeu se joue toujours à deux. Et que, en réalité, dans un pays comme la France, à mon avis, pour des raisons objectives sur lesquelles on pourra peut-être revenir, le centralisme est aussi une demande du local. Enfin, il me semble que ça se joue dans vraiment à deux termes. Il me semble que ça arrange bien un certain nombre de représentants territoriaux d'être dans cette posture ambiguë permanente vis-à-vis du pouvoir central, en gros, sur le mode, pardonnez-moi la vulgarité de mes propos, c'est occupe-toi de moi et fiche-moi la paix. C'est-à-dire à la fois, il faut que l'État nous soutienne et en même temps, nous réclamons la libre administration. Donc on est dans cette ambiguïté-là permanente qu'on retrouve encore aujourd'hui et qui est liée, à mon avis, à des caractéristiques historiques, économiques et proprement démographiques du pays.
Et qui nous font un petit peu oublier, en fait, l'espace géographique plus vaste dans lequel on pourrait les uns et les autres se reconnaître.
Géographie, la rivière est dans son lit, la montagne est fière, fière d'être toujours la dernière à garder la neige en haut, la neige sur le dos. Géographie, la rivière est dans son lit, et la plaine est belle, belle, le blé fait des étincelles, il nous donnera son grain, nous en ferons de pain. Géographie, la rivière est dans son lit, les forêts sont vertes, vertes, partons à la découverte, si les arbres sont debout, ils respirent pour nous. Géographie, la rivière est dans son lit, et les mers sont vagues, vagues, elles promènent des algues, des coquillages très bons, et beaucoup de poissons. Géographie, la rivière est dans son lit, les villes sont grises, grises, l'une à l'autre elles se disent, envoyez-moi vite un train, je le rendrai demain. Géographie. géographie, la rivière est dans son lit. Tout est mis dans un grand livre, du doigt nous pouvons le suivre. Notre monde est là-dedans, nous sommes ses enfants.
Un petit clin d'œil pour notre nouvelle émission Nos Géographies que nous inaugurons aujourd'hui en compagnie de Marie-Vic Ozouf-Marinier et de Philippe Esteb, géographe, historien également. Et ce petit clin d'œil, c'est Anne Sylvestre qui l'adresse aux enfants. La géographie s'enseigne et s'enseigne à partir des provinces, des départements, des communes, des régions. Beaucoup, beaucoup de distinctions à faire. Et vous nous disiez, Philippe Esteb, que c'est peut-être un peu plus français que courant dans d'autres pays. Sur la partie historique, on y est assez longuement revenu, l'apparition de la commune du département. Marie-Vic Ozouf-Marinier, vous y avez travaillé aussi.
Oui, 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 ce sont des créations donc de la première période révolutionnaire, hein, 1789-1790, en un temps record, on établit cette grille administrative et politique qui nous est si familière, avec une hésitation sur la commune, que je voudrais quand même signaler. Les constituants, hein, les révolutionnaires qui s'étaient attelés au projet de refaire la Constitution, auraient préféré faire des grandes communes. Ils ont présenté dans ce sens-là leur projet, mais le débat était très vif et on a voulu qu'il y ait une commune dans chaque communauté ou paroisse.
Dans un esprit d'égalité,
voilà,
déjà, bien sûr.
Et dans un esprit de peut-être de respect de la structure existante du territoire.
Philippe Esteb, parce que dès le début, on n'a pas voulu de grandes villes, finalement.
Enfin, c'est pas qu'on n'ait pas voulu de grandes villes, c'est que ça s'est pas fait comme ça, quoi, en France. Là encore,
contrairement aux autres, hein, on va encore comparer.
Oui, c'est ça. J'ai du mal à déceler une intention dans l'occupation du territoire en France, mais enfin, en gros, l'hypothèse que j'avance, et je suis intéressé par l'opinion de Marie-Vic à ce propos. Et ceci que le système administratif français se fixe à un moment qui a finalement un moment démographique un peu suspendu, qui est le 19e siècle, alors que tous les autres pays à côté connaissent des croissances démographiques extrêmement importantes, à tel point que du coup, ben, les campagnes débordent et que l'exode rural, déjà amorcé de longue date en Grande-Bretagne, se développe fortement, notamment en Allemagne, mais aussi en Italie du Nord, etc. La France, elle, est en stagnation démographique. Ce qui fait que pendant presque un siècle, les campagnes ne bougent pas. Et les villes augmentent un peu, mais finalement pas tellement. Les gens sont bien où ils sont.
Et quand ils partent, c'est pour la ville la plus proche.
Et quand ils partent, c'est pas forcément pour grande ville, c'est pour la ville la plus proche. Je crois que c'est Magali Talandier, dans sa thèse de géographie, qui montre que si l'INSEE avait mis la barre des communes rurales à 5000 habitants et pas à 2000 habitants, en fait, dit-elle, on n'aurait pas eu d'exode rural en France. Ce qui est tout à fait paradoxal et intéressant. Et on le voit bien avec les chiffres. L'Angleterre est urbaine à 80% en 1880. La France est urbaine à 80% en 1970. C'est-à-dire un siècle après. Donc, en réalité, il me semble que ça, c'est important à prendre en compte. Ouais. Parce que ce 19e siècle, c'est justement le moment où se met en place la structure administrative, la structure politico-administrative et notamment le système département-commune. Et la caractéristique de cette population, c'est qu'elle n'est pas très nombreuse. Encore aujourd'hui, on a une densité moyenne qui est deux fois inférieure aux pays voisins. Mais il y a du monde partout. C'est une population dispersée.
Au passage, il n'y a pas de désert français dont on a beaucoup parlé époque. Vous le dites tous les deux.
Non, il n'y a pas de désert français. Il y a des territoires qui perdent de la population.
Dont on parle encore parfois, d'ailleurs.
Aujourd'hui, bien sûr. Mais c'est justement par rapport... C'est ce que certains démographes, sous le Second Empire, appellent l'optimum de peuplement. Cette idée que le territoire a atteint une espèce d'optimum parfait, d'équilibre entre l'urbain, le rural, un mode d'occupation avec de la petite propriété, etc. Enfin, moi, il me semble que non seulement cet héritage, on l'a encore présent dans les têtes, mais surtout, il a marqué la structure politique et administrative du pays pendant deux siècles. On est en train d'en sortir maintenant. Mais quand même, Marie-Vic, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est extraordinaire de penser que pratiquement encore jusqu'à aujourd'hui, notre découpage territorial, il date de 1790. Oui, on pourrait dire, finalement, la carte géopolitique de la France, c'est une espèce de patrimoine mondial de l'humanité. Quoi. Enfin, c'est digne de l'UNESCO. On est le seul pays d'Europe à avoir eu cette stabilité du découpage.
Et par rapport à la population dont vous parlez, j'aurais cité un autre chiffre que moi j'ai trouvé très frappant. Aux alentours de 1800, pourtant, nous étions le pays le plus peuplé de l'Europe occidentale. C'est bien cela. Vous dites 28 millions de Français entourés de 12 millions d'Espagnols, à peine 12 à 15 millions d'Allemands. 18 millions d'Italiens et autant de Britanniques, non même un peu moins, 11 millions de Britanniques. Mais avec une transition démographique qui est arrivée plus tôt. Enfin, je fais cette aparté démographique qui est vraiment intéressant. Marie-Vic Ozouf-Marinier.
C'est très juste ce qu'explique Philippe. On a un semis très dense et régulier, une stratification très régulière de villages, de bourgs, de petites villes, de villes moyennes, de plus grandes villes. Et puis après, on fait un grand saut et on arrive à cette capitale très hypertrophiée qui est Paris. Mais cette structure vraiment du peuplement français, elle est très particulière effectivement en Europe. Et on ne sait pas si elle a contribué à formater la structure administrative, mais à son tour, je pense que la structure administrative l'a fossilisée. Hein. C'est une sorte de cercle, peut-être pas vicieux, mais qui entretient les choses.
Une sorte d'inertie, au fond,
voilà,
dans laquelle nous sommes.
Une sorte d'inertie. Ouais. Et même si on a toujours voulu, moi je me suis un peu penchée avec un collègue sur justement la question des communes et la question des cantons. Ils n'ont pas arrêté de changer pendant tout le 19e siècle. On supprime des communes, on en crée, on en annexe, on en rattache, etc. Mais malgré tout, eh bien, on est toujours resté sur ces entre 36 000 et
40 000. Hein, c'est ça.
Et il n'y a que depuis donc ces dernières années qu'on a réussi à faire un petit peu sensiblement baisser le nombre des communes.
En fait, mais à retrouver le projet des conventionnels de 1790.
Peut-être les communes nouvelles vont dans cette direction-là, mais très doucement, très timidement, il y a cette résistance forte qui s'explique par différents éléments dans lesquels le poids des leaderships politiques est quand même très important. Je pense que cette structure, elle tient aussi par l'attachement du système politique à ses fondements, mais aussi par l'attachement des habitants à donc leur clocher, leur ils vont dans le bourg ou la petite ville pour faire leur course de première nécessité, et puis quand ils ont besoin d'aller au théâtre, etc., ils vont dans une ville cette fois-ci nettement plus importante. Tout ce que je décris là étant le schéma de la France rurale et peu métropolisée, un schéma qui est en plein bouleversement évidemment avec la métropolisation actuelle. Hein. Donc là on a vraiment...
Et les réactions que l'on sait.
Oui.
Mais si l'on revient à ce découpage de 1790, n'oublions pas quand même quelle était sa logique. Elle était une logique d'égalité, naturellement. Nous sommes dans la Révolution française. Et donc, une logique d'accès à des services publics. Il fallait que chacun puisse y avoir recours. C'est toujours un peu cette logique-là, au fond, qui nous guide. Non, je vous parle à tous les deux, Philippe et Steve.
Bon, d'abord, je pense, enfin Marie-Vic qui a travaillé là-dessus et qui connaît ça beaucoup mieux que moi le confirmera, j'espère. Il faut souligner la grande modernité du découpage départemental.
C'est ça, c'était une idée proprement révolutionnaire, quand même, disons-le.
qui résonne effectivement, pas forcément en termes de proximité, mais en termes d'accessibilité. Autant en termes de réseau que de territoire, pour reprendre.
Donc d'égalité, Philippe Stem.
D'égalité d'accès.
D'accès.
Oui, d'égalité d'accès. Ce qui est une vision à la fois politique, géographique, et qui renvoie pas nécessairement à une égalité de répartition des équipements sur l'ensemble du territoire. Il y a derrière quand même, avec l'idée du chef-lieu, de département, etc., cette idée d'une concentration de services publics et privés en un point qui doit être accessible. Donc l'égalité se joue dans l'accessibilité. Aujourd'hui, on commence à se poser la question autrement, et ça fait un certain temps d'ailleurs que ça dure, si il y a pas autre chose que la question purement et simplement de l'accessibilité. Donc soulignons la modernité du découpage départemental, et ce qui explique, je pense, hein, y compris par l'effet que décrivait Marie-Vic tout à l'heure, à savoir l'effet de renforcement mutuel qui se produit entre la structure du peuplement et la structure politique, ce qui explique l'incroyable longévité du département, alors que, je crois qu'il y a un texte de Roncaiolo là-dessus, justement dans les lieux de mémoire, où il dit que, en gros, le département est considéré comme obsolète, comme une structure, un découpage obsolète, dès la fin du 19e siècle. Même presque parfois avant d'ailleurs. Et en France, depuis ça fait 50 ans ou 60 ans, si vous voulez avoir l'air moderne et que vous voulez réformer le gouvernement, vous dites, le gouvernement du territoire, je vais supprimer le département.
C'est ça. Et le Sénat peut-être aussi. Ça va dans la même conversation.
Mais on n'y arrive pas.
C'est parfois le même débat, mais on n'y arrive pas.
Alors
il n'y arrive pas.
De réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Ce système donc français, il est producteur d'égalité d'accès, mais je voudrais quand même aussi rappeler qu'il a été conçu pour fonder l'égalité de représentation politique. Et donc, ça, c'était aussi pouvoir aller voter d'une façon avec les mêmes conditions d'accès au bureau de vote et fonder l'unité. C'est donc un principe d'égalité, mais aussi un principe d'unité nationale, de fondation de la nation.
Mais est-ce que ça veut dire aussi, pour le politique local, de garder aussi son pouvoir, son influence, ou la manière dont lui pouvait faire pencher les votes dans la bonne direction.
Je ne le dirais pas comme ça parce que
c'est pas un calcul politique.
Le système politique est extrêmement complexe sous l'ancien régime, n'est pas exactement le même dans chaque partie de la France. Donc là, il y a pas vraiment un héritage direct. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que ce système proposé donc par les révolutionnaires, il a été tout de suite apprécié comme quelque chose d'avantageux. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles ça a marché. Ça a marché tout de suite
pour tout le monde.
Avantageux parce qu'il y avait beaucoup plus, justement, de mandats politiques qui n'en existaient auparavant. C'était une multiplication des mandats politiques. Et donc ça a été apprécié comme quelque chose qui allait dans le sens d'une meilleure représentation, de quelque chose de... La démocratie, elle est venue un peu plus tard, mais quand même quelque chose de républicain et qui assurait, d'une manière beaucoup plus égalitaire, la représentation du citoyen.
Et puis peut-être des places supplémentaires offertes à
des places supplémentaires.
À la moyenne bourgeoisie.
Exactement, exactement. Ça, c'est il faut avoir ce chiffre un peu en tête que les départements, ça et non seulement les départements, mais leurs subdivisions, ça offre un ensemble de postes beaucoup plus nombreux qu'il n'y en avait auparavant avec le système provincial. Et donc, les gens y ont vu véritablement une amélioration de la vie politique et pour moi, c'est une des raisons de l'adhésion rapide au nouveau système.
Et durable.
Et durable.
Et puis alors, juste là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de voir comment dans la durée, le système politique français... s'est structuré autour du département. Et pas simplement le système politique, mais aussi tout le système associatif. Fédération sportive, fédération des associations laïques, religieuses, etc. Tout ça, c'est une structure départementale. Donc le département a fini par devenir un espace extraordinairement important, à la fois dans la vie politique, dans la vie quotidienne, mais aussi pour tout ce qui concerne la structuration de la société civile. C'est quand même assez intéressant. Intéressant de voir que y a toute une série de villes chef-lieux aujourd'hui qui tiennent uniquement grâce à ces fonctions de fédération départementale, services départementaux, représentation départementale des établissements bancaires, etc. etc. Enfin,
Mais alors ça veut dire aussi, par rapport au poids écrasant de Paris, que vous avez mentionné l'un et l'autre, puisqu'on l'a dit, pas de grandes villes, si l'on pense à l'Angleterre, on peut citer au moins 4 ou 5 très grandes villes en Angleterre qui ont une forte influence locale, idem en Allemagne. Idem en Italie, même si vous trouviez des comparaisons avec l'Italie, il y a de très grandes villes, évidemment, italiennes. Alors la répartition et l'histoire aussi est plus courte, bien entendu, dans la République, mais tout de même. Si l'on regarde donc ce poids écrasant de Paris, là, vous êtes en train, en parlant des départements, de montrer qu'il y a quand même un pouvoir local. Or, ce qui est souvent mentionné en France, c'est cette présence de l'État partout, qui, alors là, pour revenir à l'exemple anglais... n'existe absolument pas. Les hauts fonctionnaires anglais sont à Londres, ils ne sont pas dans les régions.
Ah, ils ne vont surtout pas sur le terrain.
Ils ne vont pas sur le terrain.
Il y a même, je pense, un souverain mépris qui règne dans l'administration centrale britannique vis-à-vis de l'administration locale et des élus,
On laisse agir les pouvoirs locaux.
C'est du gouvernement à distance, comme dirait Renaud Epstein. En France, ce qui s'est passé, ça a été bien mis en évidence par un spécialiste de sociologie des organisations, sociologie politique, Pierre Grémion, ce qu'il appelle le pouvoir périphérique, c'est-à-dire qu'effectivement, l'État est dans les provinces, dans les territoires, très très fortement implanté. Alors, il y est implanté pourquoi ? Il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez 36 000 communes, en fait, vous avez, pardonnez-moi l'expression, vous avez 30 000 canards boiteux, au sens où ces 30 000 institutions qui n'ont pas les capacités, qui n'ont pas les moyens, en réalité, de gérer leur territoire, véritablement. Même si elles sont autonomes et qu'elles ont une capacité de décision. Et donc les services de l'État viennent suppléer à ça. Et alors, certains d'entre nous ont connu ça dans les années 1970 ou 1980, il fallait voir le couple que formaient les maires ruraux avec leur ingénieur subdivisionnaire de l'équipement. Ils étaient totalement mariés. Il m'est arrivé d'accompagner un ingénieur subdivisionnaire de l'équipement dans ses tournées au début du mois de janvier. C'était lui qui faisait les budgets communaux. En disant, monsieur le maire, vous avez vu là le mur du cimetière, là il y a un rond-point qu'il faut faire, et puis d'ailleurs je vous proposerai bien un terrain de camping. Enfin bon, l'État administre, mais dans un rapport extraordinairement étroit aux collectivités locales. Et donc Pierre Grémion a mis en évidence le système très particulier français, qui est un système non pas ni centralisé ni décentralisé, mais imbriqué, dans lequel les pseudopodes de l'État, l'État dans les territoires, en fait, sont dans un double rapport, un rapport très intime au local, et en même temps un rapport au national. Et donc on est beaucoup plus dans des logiques d'intercession et de négociation permanente entre le centre et la périphérie que dans une logique d'imposition d'ordre venu d'en haut, contrairement à ce qu'on pense beaucoup. Maintenant, c'est en train de changer d'une certaine façon, avec le retrait de l'État des territoires.
En tout cas avec son intention affirmée par le tout récent gouvernement.
J'adhère tout à fait à cette vision du département comme intercesseur entre l'État et les communes. Mais oui, là encore, je voudrais quand même parler aussi de cette absorption maintenant du département dans les métropoles, dans les zones métropolitaines. On a l'exemple éclatant de la métropole lyonnaise qui a donc absorbé le département du Rhône. Mais c'est une question qui se pose dans d'autres endroits. Effectivement, dans ces espaces métropolitains, là, on a une stratification d'institutions tellement complexe et coûteuse, disons-le, que la question d'une modification du système se pose. Et en effet, on ne voit plus très bien ce que fait souvent le département, même si le spectacle de la métropole parisienne m'invite toujours à être prudente dans cette mise à mort du département, parce que quand on voit l'activisme et les résultats et le travail extraordinaire qui est fait par certains départements, la Seine-Saint-Denis par exemple, où il y a vraiment un volontarisme politique
et très local, très local, sur le territoire, ouais.
Qui je veux dire n'a rien à voir avec les compétences telles qu'on les décrit sur le papier et telles qu'on les énumère dans la législation. Là, on a affaire à vraiment des collectivités territoriales qui sont extrêmement actives. Mais d'une manière générale, c'est vrai que je pense qu'il y a aujourd'hui deux poids, deux mesures entre, encore une fois, cette France des villes moyennes, des petites villes et du rural, et puis donc les zones fortement urbanisées.
Je crois que je voudrais enfoncer le clou. Enfin, Marie-Vic vient de dire pour moi deux choses extrêmement importantes. La première, c'est le phénomène métropolitain, qui est quand même un phénomène relativement récent en France. affirmation et croissance d'un certain nombre de grandes villes qui semblent, bon, alors c'est discuté, mais enfin, jouer un rôle moteur dans l'économie du pays. C'est assez récent. Et moi, j'assimile ça volontiers à un phénomène de géographique. C'est une espèce de plissement métropolitain comme une montagne qui apparaît et qui vient du coup déformer complètement toute la maille administrative, politico-administrative qui était déjà en place. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur quoi, me semble-t-il, on n'a pas suffisamment réfléchi. On a tendance à être aujourd'hui dans une querelle du type pour ou contre les métropoles, pour la campagne versus l'urbain, etc. Mais réfléchir à ce phénomène de métropolisation et la façon dont ça a des effets comme ça de déformation du système me paraît extrêmement important. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est ce que vous dites sur le département de Seine-Saint-Denis, c'est-à-dire l'extraordinaire labilité de ces institutions. Au sens où on a l'impression d'un système extrêmement rigide, mais en réalité, c'est aussi bien la commune que le département, voire, c'est moins évident, la région, vous pouvez vous en servir de plein de façons différentes. Et c'est clair que le département, la même institution, dans mettons, Lozère, ça s'appelle département, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'appelle département en Seine-Saint-Denis.
Ce qui vient d'être décrit en Seine-Saint-Denis, bien sûr.
Et ça, c'est très intéressant.
Je vous avais demandé à chacun si vous souhaitiez qu'on vous fasse entendre une archive ou si vous vouliez faire référence à un texte, à un grand penseur, géographe ou d'une autre discipline d'ailleurs, mais qui aurait réfléchi à ces questions dont nous parlons ce soir. Vous avez choisi Marie-Vic Ozouf-Marinier. Quelqu'un qui est à la fois, je dirais, géographe, historien, sociologue, mais aussi un peu économiste. Assez inclassable, en fait, c'est le terme que vous avez utilisé dans un hommage que vous lui avez rendu. Il est récemment disparu. C'était en tout cas un grand spécialiste de géographie urbaine, un grand penseur, et qui avait un immense amour pour sa ville, Marseille. Je suppose que tous les amateurs de géographie auront déjà reconnu Marcel Roncaiolo.
Je crois qu'en fait, et pour la géographie, et en particulier pour la géographie urbaine que j'ai particulièrement manipulée, le problème c'est que, dans le fond, l'homme sécrète son espace, et que dans ce qu'il sécrète, il crée dans le fond une sorte de seconde nature qui a des temporalités différentes. Alors il est un peu, dans le fond, enfermé dans ce qu'il a déjà créé, mais plein de désir de créer autre chose. Et dans le fond, la géographie se trouve à l'articulation, en quelque sorte, entre ces deux désirs humains, et enfin, ou plutôt entre cette contrainte humaine, je dirais, la reproduction, si vous voulez, et cette autre contrainte, la production. Il faut bien dire que la géographie à la française s'est constituée par des Français qui étaient des historiens d'origine, comme Vidal de Labla, c'est très proche des historiens, mais en contact avec des courants de connaissances scientifiques qui étaient internationaux. Je pense au voyage de Humboldt, qui ont été essentiels pour comprendre la différence des paysages naturels. Et il y a eu aussi les grandes découvertes théoriques dans le domaine de la biologie, et en particulier le fait de passer du fixisme à l'évolutionnisme et au transformisme. Alors, ça n'est pas dans un vase clos, si vous voulez, que cette géographie est née. Mais elle s'est trouvée, si vous voulez, placée particulièrement dans cette situation à l'articulation de la nature et de l'histoire, parce que justement, elle provenait du milieu d'historiens qui se posaient des problèmes, dans le fond, de ce qu'il y avait, pas avant, mais enfin autour.
France Culture, nos géographies, Dominique Rousset.
Marcel Roncaiolo, donc, disparu en 2018, il y a bientôt 2 ans, et que vous admiriez beaucoup. Juste ce décryptage de ce qu'il vient de nous dire là, de la blague, bien sûr, qui est pour vous tous une grande figure.
Vous l'avez dépeint donc comme un inclassable. En effet, c'est quelqu'un qui s'est nourri à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, qui s'est personnellement battu pour l'institutionnalisation de l'enseignement des sciences sociales. Et donc, c'est vraiment pas étonnant s'il fait référence référence à des figures qui sont à la fois de grands géographes, mais à travers le transformisme, etc.
Qu'est-ce qu'il veut dire entre le fixisme et le transformisme ? Dites-nous-en un peu plus.
Oh là, je me lancerai pas là-dedans, mais je voudrais vraiment insister sur le fait que un certain nombre de géographes de cette génération étaient en effet nourris à des lectures philosophiques. Roncaillo était très marqué, notamment par Bergson. Bon, évidemment, cette histoire naturaliste de la géographie qui s'est inspirée des grands courants du 19e, elles étaient présentes dans les esprits pour essayer de mettre à sa place les courants géographiques tels qu'on les a dénommés par la suite, c'est-à-dire le courant déterministe qui voyait dans les faits humains le résultat du façonnement par l'effet physique, le courant possibiliste qui donnait plus de place à l'homme, et puis après ce ménage qu'on a fait à la fois dans le déterminisme et le possibilisme pour remettre l'homme totalement à sa place dans le façonnement des espaces. Ce sont des questions qui ne cessent de traverser la géographie et qui, je voudrais le souligner, connaissent aujourd'hui une reviviscence particulière avec tout ce qui nous préoccupe à propos de la biodiversité, à propos du réchauffement climatique, à propos de notre environnement et de ses transformations.
Bien sûr, la géographie est très très fortement impactée, comme toutes les autres disciplines d'ailleurs.
C'est très très intéressant qu'on utilise aujourd'hui le mot anthropocène pour désigner la période dans laquelle nous nous trouvons, qui est...
Où l'homme prendrait le pouvoir sur la nature.
Oui, mais qui est aussi calé sur un vocabulaire de type géologique.
Tout à fait, c'est les airs.
Oui, c'est important. Roncaillo qui a travaillé aussi avec Brodel, hein, je crois, avec Fernand Brodel.
Bah, assisté, oui.
Et qui était à l'école pratique de hautes études, comme vous l'êtes vous-même, madame. Philippe Estep, vous n'avez pas apporté ou demandé d'archives, mais vous vouliez vous rendre un hommage à
Gambetta.
Un autre personnage, un peu plus
Gambetta,
ancien.
Gambetta, qui n'était pas géographe, même s'il a fait des promenades en ballon, comme chacun sait. Alors, rendre hommage à Gambetta, pas hommage, mais en tout cas, parler de cette figure qui me paraît extrêmement importante, bon, d'abord, par sa stature, par son côté incarnation de la République, mais aussi par la prescience qu'il a eue, et notamment... la façon qu'il a eu de jouer la carte, une certaine carte politique de la ruralité. Gambetta se rend bien compte, au début de la Troisième République, que si la République veut durer, elle doit gagner les campagnes. Parce qu'ils font tous l'analyse, évidemment, qu'a faite Marx à propos du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, que les campagnes sont conservatrices, et donc voilà. C'est à la fois l'enjeu d'éduquer les gens et de les attacher à la République. Et donc Gambetta, c'est d'une certaine manière lui qui est à l'origine, indirectement en tout cas, de la constitution de la commune telle qu'elle est aujourd'hui. Il a un souci qui est, dit-il, faire chausser aux paysans les sabots de la République. Et en disant que lorsque ça sera fait, la République sera invincible. Et un des termes de l'échange avec les paysans, c'est la souveraineté et l'autonomie communale. Avec une forme de garantie consistant à dire aux paysans, aux propriétaires du sol, en fait, on vous donne les clés de la terre. Et c'est extrêmement important, cette affaire-là, parce qu'encore aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une commune rurale ? Une commune rurale, je le sais bien, j'habite un village de 250 habitants, c'est une assemblée de copropriétaires. C'est-à-dire que vous avez, en clair, les chefs de famille, propriétaires du sol, qui sont représentés au conseil municipal. D'où toute une série de conséquences sur lesquelles je ne reviendrai pas en matière d'urbanisme, d'application du droit des sols, de petites maisons dans la prairie, etc., etc. Donc Gambetta a eu ce rôle absolument fondamental, à la fois, je dirais qu'un rôle très positif d'une certaine manière, c'est donner les clés politiques de la terre à ceux qui la travaillent, et en même temps qu'il y a eu des conséquences absolument incroyables en termes d'aménagement du territoire.
Qui perdurent aujourd'hui.
Qui perdurent aujourd'hui.
C'est bien ce que vous vouliez nous dire. On le lit, ces textes-là, enfin ces idées-là, on peut les retrouver dans un texte.
Alors c'est un discours...
Vous nous donnerez les références.
Oui, c'est un discours qui a été prononcé en 1881, mais je n'ai pas réussi à le retrouver. Il faudrait avoir les œuvres complètes de Gambetta, ce que je n'ai pas.
Encore quelques questions à vous poser après ceci.
On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Mani, le Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher, être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, c'est partir qu'on veut, revenir qu'on part. J'en est pareil ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent? Que les gens naissent pareil ou pas? On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus le trottoir de Mani, Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas? Est-ce que les gens naissent égaux en droit? À l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils ou pas?
C'est Ayo, chanteuse Ayo, qui interprète cette version d'une chanson bien connue. Être né quelque part, et c'est justement la question que j'aimerais vous poser, comme nous la poserons d'ailleurs à tous nos autres invités cette année, au cours de nos géographies chaque semaine, je le rappelle, à 21h, et nous parlions avec vous de la géographie, toute une histoire ce soir, pour introduire toute cette série. Vous considérez-vous de quelque part l'un et l'autre? Et je retiens cette phrase dans cette belle chanson, « Je suis né quelque part, laissez-moi ce repère où je perds la mémoire ». Est-ce que vous entendez cette phrase-là, Marie-Vie Kozouf-Marigny? Est-ce qu'on peut vous demander d'où vous êtes et si pour vous ça a revêt une importance considérable?
Tout à fait, mais je vais répondre d'une manière un peu décomposée à cette question. Moi, je suis née à Paris, j'y vis et je me sens très parisienne, j'adore ma ville. Et ça compte beaucoup pour moi de nouer des attaches avec les lieux. Je dis ça parce que je pense que c'est pas pareil pour tout le monde. Je pense qu'on est très inégaux par rapport à ça. Il y a des personnes qui me semblent ne pas développer particulièrement des liens avec les endroits où ils se trouvent. Moi, c'est tout le contraire. C'est pour ça que je suis parisienne. Mais je me sens très facilement d'un endroit où je séjourne et où je me fais des repères que j'apprends justement à connaître sur le plan géographique, à comprendre sur le plan géographique. Et donc, j'ai, je pense, une multi appartenance à ma ville, mais aussi au territoire de ma famille, qui vient de partout, donc j'en ai plusieurs.
Au territoire
où j'ai séjourné pendant des vacances, au territoire où je me rends pour mon travail, surtout des villes d'ailleurs, en l'occurrence, moins que des territoires. J'ai pas toujours le temps de les explorer par le menu. Donc je me sens cette identité feuilletée de partout où je passe et de partout où j'ai beaucoup de mal à partir. Je sens toujours que j'ai du mal à quitter les endroits.
Mais j'observe quand même, vous avez parlé d'appartenance affective tout à l'heure, hein, lorsque nous définissions le territoire, j'observe que là, vous ne parlez pas d'endroit où vous êtes né. Enfin si, vous êtes né à Paris, mais ça n'est pas... Vous pouvez être d'un lieu où vous passez.
Voilà, exactement.
Pas forcément d'un lieu d'où vous venez.
Oui.
Et vous, Philippe Esteb?
Alors moi, un peu par hasard, je suis né à Montauban. Enfin, pas tout à fait par hasard, une partie de ma famille est originaire de Montauban. Mais je n'ai conservé strictement aucune attache, ni même de tendresse particulière pour cette ville, bon, qui a son charme par ailleurs. Et en fait, je réfléchissais à votre question et je me rends compte que je me suis inventé un lieu d'origine. C'est-à-dire que j'ai recherché le village d'origine de ma famille, qui est un tout petit village ariégeois, qui est perché au sommet d'une montagne, mais dans une espèce de cuvette, ce qui fait que on voit pas l'horizon, on voit le bord de la cuvette. Donc on a l'impression qu'on pourra jamais en sortir de cet endroit-là. Et pourtant, comme tous les Ariégeois, ils ont commencé petit à petit à parcourir l'espace en étant d'abord gendarme, puis instituteur, puis prof de lycée, puis prof de fac, petit à petit. Et du coup, ils se sont déplacés, alors pas très très loin, ils se sont arrêtés à Toulouse. Et du coup, voilà, je me suis inventé ou réinventé ce petit nid natal.
C'est donc qu'il a besoin de le faire, selon vous?
J'en ressentais
pas tout le monde, comme on l'a dit, mais...
J'en ressentais le besoin, effectivement.
Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Vous êtes livrés ainsi être d'ici ou d'ailleurs. Ça fera partie des questions, effectivement, assez récurrentes que nous voudrons poser à nos invités. Merci à tous les deux. Donc, Marie-Vic, Ozouf Marinier, je voudrais signaler un ouvrage qui est à paraître, mais je crois que vous y tenez beaucoup, Les mots-clés du peuplement. Vous l'avez dirigé, c'est un ouvrage collectif qui paraîtra aux presses universitaires. François Rabelais, c'est l'université de Tours. Puisqu'on a parlé de Roncaiolo, citons l'abécédaire, vous l'aimez beaucoup, il est original, séduisant, parfois très amusant, de Marcel Roncaiolo, donc paru en 2011, un entretien avec Isabelle Chéneau. Il faut le citer, de Philippe Esteb, je l'ai déjà mentionné, c'est tout à fait intéressant, j'y renvoie, l'égalité des territoires, une passion française, ou presque une manie française, si on vous a bien entendu, l'un et l'autre. Encore merci à tous les deux, merci aussi à notre équipe, et nous nous retrouvons avec plaisir, Anne-Laure Chanel pour la réalisation. Elle était ce soir en compagnie d'Éric Boisset et Sandrine Chaperon, Catherine Donnet pour la préparation, pour la documentation, pour l'accueil de nos invités, pour bien d'autres choses encore. Elle s'occupe notamment de notre site où nous attendons vos réactions à vous, amis géographes et amis qui vous intéressez à la géographie. Très très bonne soirée à tous. À jeudi prochain.